Eh bien voilà, aujourd'hui un dossier santé. Alors, on a autour du micro, tu te présentes.
Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Auger et je suis sage-femme.
Moi je m'appelle Maëlle et je suis élève à la MFR de Adel et je suis stagiaire à la radio Gamozo.
Tu as quel âge ?
J'ai 16 ans.
16 ans, je suis Jean.
Et puis Jean Tisserand.
Médecin retraité.
Médecin retraité. Ex
gynécologue obstétricien à la maternité
de Remiremont, qui est vice-président aussi de l'association ADEMAD, à qui nous devons cette émission, magazine santé d'ailleurs. Aujourd'hui, le sujet, ça va être...
Plutôt la santé sexuelle aujourd'hui.
Voilà, des ados.
Des adolescents. Isabelle, quelle tranche d'âge tu es amenée à voir un petit peu ?
Alors déjà, l'adolescence, je dirais que ça termine à 25 ans.
Parce que parfois,
on a tendance à se dire, 18 ans, ça y est, je suis majeure, je suis adulte, mais on sait que les transformations au niveau du cerveau perdurent jusqu'à l'âge de 25 ans.
Ah bon ?
Oui.
Donc, vous voyez des jeunes de 13 à 25 ans, quoi.
Oui, alors en réalité, donc les centres de santé sexuelle où je travaille sont ouverts en priorité aux jeunes, quel que soit l'âge. Et c'est ouvert aussi aux personnes qui n'ont pas de couverture sociale. Et puis, en réalité, c'est ouvert à tout le monde.
D'accord.
Peu importe l'âge. Mais effectivement, la majorité de nos patients sont de jeunes adultes ou adolescents, y compris des mineurs. La moitié de nos patients sont mineurs et peuvent venir sans l'accord des parents. C'est une particularité.
Donc, c'est totalement gratuit et anonyme.
Totalement gratuit et confidentiel.
Vous adressez où alors ?
Alors, les 14 lieux de consultation sont situés soit dans les maisons de la solidarité de la vie sociale, donc du conseil départemental.
Et oui.
Sur tout le territoire.
Et une à Remiremont, d'ailleurs.
Mais à Remiremont, Épinal,
Gérardmer aussi.
Oui, il y a une MSVS sur chaque ville principale. Mais à Remiremont, Épinal, nos locaux sont au sein du centre hospitalier. Donc les patients peuvent venir consulter là-bas, à Durkheim et puis à la maternité de Remiremont.
Au sein de la maternité, c'est toujours le mercredi après-midi ?
Oui, et un vendredi après-midi sur deux.
Ah, vendredi après-midi sur deux.
Voilà, l'arrivée d'un nouveau médecin, donc on a pu augmenter les permanences à Gérardmer et à Remiremont, rajouter une demi-journée par semaine.
Oui, et ces jeunes doivent prendre rendez-vous, viennent sans rendez-vous, comment que ça se passe ?
Alors, s'ils viennent sans rendez-vous, évidemment, on essaiera de les recevoir. Après, c'est plus confortable de prendre rendez-vous envoyant un petit SMS ou un petit mail ou un petit coup de fil afin d'être plus disponible.
Faudra vous donniez les références un petit peu parce que je pense que peut-être pas mal de jeunes vont pouvoir
tout à fait.
Profiter
alors,
de ça.
En allant sur vosges.fr et en tapant centre de santé sexuelle, donc il y a la plaquette avec l'adresse et les coordonnées des 14 sites de consultation. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter.
Les motifs de consultation, c'est souvent de la contraception ou...
Alors souvent, on va dire que le motif principal, effectivement, ça sera les questions autour de la contraception, puisqu'on peut la prescrire, la poser et faire le suivi contraceptif. Ça peut être aussi le dépistage des IST, les infections sexuellement transmissibles. Ça peut être aussi une demande d'interruption de grossesse. Donc une IVG, où on est apte à réaliser l'IVG médicamenteuse sur certains centres, voire même les échographies de datation. Et puis sinon, on peut accompagner bien sûr les patientes et les orienter si on est hors délai pour la prise de médicaments ou s'il y a une contre-indication, on les oriente du coup vers les hôpitaux. Et puis, on peut aussi réaliser des consultations de suivi gynécologique de prévention, dépistage du cancer de col de l'utérus, par exemple, à partir de 25 ans, exactement. Oui. Et puis, ça c'est au niveau des consultations médicales. Et il y a une deuxième proposition aussi sur les centres de santé sexuelle, c'est le conseil conjugal. Donc sur certains centres, on peut bénéficier d'un entretien avec une conseillère conjugale et familiale, autour des questions par rapport à la vie affective, la vie relationnelle, la vie amoureuse. Elle peut aussi traiter la question des violences intrafamiliales ou les violences conjugales. Et puis, elle peut aussi réaliser l'entretien psychosocial dans le cadre d'une IVG si la patiente est mineure. Ça, c'est une obligation légale.
C'est toujours une obligation légale.
Pour les mineurs,
oui. Un entretien psychosocial avant.
Tout à fait.
Oui, oui.
Le délai a disparu, parce qu'il y a encore quelques années, il fallait un délai de 7 jours, ensuite 48 heures. Là, il n'est plus question de délai, mais il reste obligatoire tout de même.
D'accord. Une idée des proportions de ces différentes activités, à peu près, comme ça, en gros.
Alors, les chiffres, alors j'ai en tête de 2023, donc on a réalisé 1500 consultations, d'ailleurs en 2024 aussi. Donc 2023, ça représentait 330 demi-journées de permanence, avec 900 consultants différents, dont la moitié sont mineurs. Au niveau des motifs de consultation, il me semble que sur les 1500 consultations, il y avait 300 demandes de dépistage des IST. Sinon, la contraception est une grande partie. On peut aussi venir pour faire un diagnostic de grossesse. Et puis, les demandes d'IVG, je trouve, sont en augmentation, puisqu'on déploie cette compétence. On est plusieurs collègues à nous être formés. Oui. Donc, effectivement, on a de plus en plus de demandes d'accompagnement dans le cadre d'une IVG.
Le chiffre global des IVG en France était autour de 200 000 par an, à peu près, là, je crois.
Oui. Il reste stable.
Oui, ça reste stable, malgré le...
malgré l'accès à la contraception.
C'est un des grands mystères.
Paradoxe. Et
paradoxe, un petit peu du sujet, je crois. Ouais.
Oui, tout à fait.
Moi, je lisais que 2/3 des demandes d'IVG, c'était un échec de contraception, c'est ça, à peu près? Et 1/3, c'était une absence de contraception.
Je dirais même, il me semble, j'ai plus le chiffre en tête, mais que les femmes en demande d'IVG, la majorité ont un contraceptif. Oui. Hein. Je crois même que c'est 80 ou 90%.
D'accord. Donc ce sont des échecs.
Oui.
Pilules, stérilets, préservatifs.
Oui, effectivement. Etc. Ils ont tous une efficacité différente.
Ouais.
Au niveau de la contraception, on sait que les contraceptifs longue durée d'action que les femmes peuvent garder 3 ou 5 ans sont plus efficaces. On est au-delà de 99% d'efficacité. D'accord. Parce que voilà, le dispositif est dans le corps, donc il n'y a pas le risque d'oubli. Ouais. Mais bon, ça, c'est un choix individuel.
Hein, Oui, ce qui serait le plus efficace actuellement, ce serait les implants, c'est ça?
Alors, implants ou dispositifs intra-utérins, effectivement, on est à plus de 99% d'efficacité. Oui. Bon, après, les autres points de contraception, s'ils sont bien pris, sans oubli, ont quand même une efficacité, autour des 93%. Ouais. Et par contre, seul le préservatif, masculin ou féminin, est efficace contre la protection, contre
les IST.
Ça, il faut le rappeler.
Oui, c'est capital.
Il y a beaucoup de, dans votre emploi du temps, il y a beaucoup de prévention.
Oui.
Oui.
Oui, on est déjà, il faut savoir que les centres de santé sexuelle donc sont une mission de la protection maternelle et infantile, donc c'est une compétence obligatoire du conseil départemental. C'est vrai que on est au cœur de la prévention, c'est vraiment notre mission première, et donc les patients peuvent venir consulter pour les questions autour de leur vie affective, de leur sexualité, pour avoir des informations. Donc voilà, c'est vraiment un but de prévention, et on mène aussi des actions collectives, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Autant on fait des consultations et entretiens à titre individuel, on a aussi une mission de promotion de santé au niveau collectif, où on peut intervenir à la demande des établissements scolaires, auprès d'associations, de CADA, les missions locales, les personnes en situation de handicap, par exemple en IMT ou en ESAT. On essaie de répondre au mieux aux sollicitations des partenaires.
La loi prévoit une éducation sexuelle et affective dès l'école, dès les petites classes, je crois, non? Il me semble l'école primaire.
Même maternelle, même effectivement, maternelle, là, il y a une actualité au niveau de... Donc, on appelle ça...
J'ai entendu ça, oui.
Les VAR, jusqu'au CM2, donc éducation à la vie affective et relationnelle.
Oui.
Et ensuite, à partir de la 6e et du collège, donc c'est les VARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Et sexuelle, on rajoute le sexuel.
Effectivement, c'est une circulaire qui date de 2001.
Oui.
Et normalement, chaque étudiant doit avoir trois séances par an, sur ce thème-là.
Mais c'est suivi quand même.
Et ben voilà, c'était pas trop réaliste ou réalisable. Mais là, il y a une vraie volonté, puisque là, il y a le nouveau programme des VAR et des VARS qui est sorti, où l'éducation nationale propose un programme qui est complet, transversal, adapté à l'âge et pluridisciplinaire. Et donc, effectivement, dès la maternelle, bien sûr, au niveau des petits, ça va être apprendre le respect du corps,
respect de l'autre,
Le consentement. Mais voilà, on n'est pas du tout dans la sexualité, mais juste dans le respect. Et puis dans...
Et je crois que c'est capital de parler de consentement. Je lisais que 15% des enfants étaient victimes de violences sexuelles dans notre pays.
Oui, les chiffres sont vraiment alarmants.
C'est effarant. C'est effarant.
15%, oui.
Alarmant.
Énorme.
C'est énorme.
Et la majorité du temps, c'est en famille, en fait.
Oui, bien sûr. C'est
Donc, je pense que là, il y a une vraie volonté politique de protéger les enfants, parce qu'un enfant éduqué, un enfant protégé... Et donc, dès le plus jeune âge, qu'ils puissent apprendre ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, que leur corps leur appartient, que leur corps est leur trésor, et personne n'a le droit de leur faire du mal.
Exactement.
Donc, c'est effectivement primordial.
Et parmi les les parents d'élèves ont des réticences, en particulier religieuses quand même.
Non, on n'a pas été confrontés à ça. Alors effectivement, là, ce qu'on peut entendre par rapport au nouveau programme, mais ça n'a rien de religieux, c'est des parents, par méconnaissance, parce qu'ils l'ont pas lu, ça peut inquiéter, ils se disent tiens, qu'est-ce qu'on va parler sexualité à mon enfant qui est en primaire, mais en fait c'est pas du tout le cas, et s'ils lisent le programme, ils pourront voir qu'il est très complet, très très adapté, donc c'est plus par méconnaissance.
Oui, connaissance du corps déjà.
Voilà.
Leur propre corps.
Donc les gens qui y sont opposés, voilà, je les invite à lire le programme et à voir qu'il est vraiment complet, et puis qu'il s'appuie aussi sur les recommandations de l'OMS.
Vous ne rencontrez pas de réticence culturelle ou scientifique
Non.
Parce que c'est un sujet. Aussi, ça.
Enfin, je n'y ai pas été confrontée, pas mais de toute façon, nous, on s'appuie sur la médecine et sur la loi, en fait. Hein.
Oui.
Et on a une approche respectueuse, globale et positive, comme le recommande l'OMS. Ouais. Donc,
Comme on parle un petit peu de comment c'est amené dans les programmes scolaires, justement, on a Maëlle avec nous, parce que je me suis dit que ça pourrait être pertinent, si tu le veux bien, Maëlle, de nous raconter un petit peu comment toi, en tant qu'écolier, tu le vis de l'intérieur, comment c'est amené, à quelle fréquence, quelle est la prévention et comment c'est compris en fait par tes camarades et toi?
Je pense qu'il faut savoir, moi, quand on a commencé à en parler, c'était au collège, donc en quatrième, on a reçu des cours de la part de notre prof d'SVT, puis on a reçu aussi des cours d'éducation sexuelle, 3 dans l'année je crois, par notre infirmière. On s'était plus pris à la rigolade, je pense, parce qu'il y avait un manque de maturité. En quatrième, c'est peut-être un peu tôt. Et je sais que là, l'année dernière, en seconde, on a re-eu donc un chapitre et il y avait moins de tabous qu'en quatrième, parce qu'au collège, les professeurs et l'infirmière, ils osent peut-être moins parler de détailler. Et c'est plus mis aussi du coup sur la rigolade. Mais je sais qu'en seconde, c'était plus détaillé, on était plus mature au niveau des préventions, tout ce qui est préservatif, tout ça.
Prendre soin de soi et de sa santé.
Oui, c'est ça.
Et les questions posées le plus souvent par les jeunes en classe portent sur le préservatif, contraception.
Oui, c'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça qu'on a abordé au niveau des sujets, ou aussi peut-être des fois aller pour les contraceptions, aller en parler. Parce que je sais que dans ma classe, l'année dernière, il y avait certaines personnes qui avaient peur, par exemple, si une fille était enceinte, de la peur d'aller voir, d'en parler à leurs parents.
Oui.
Et du coup, on a parlé aussi des solutions qu'il y avait pour pas forcément qu'il y ait de complications au niveau de ça.
Oui, c'est bien, il y a des possibilités qu'on a vu de consulter de manière anonyme, de manière totalement gratuite, sur un simple appel téléphonique ou même sans, c'est possible. Je crois que c'est bien. Merci.
Alors là, on a parlé de, on va dire, comment ça marche. Donc, sur le principe, toi et tes camarades, vous savez, la protection, la contraception, éviter les grossesses. Les IST aussi, il me semble, parce qu'on en avait parlé. Et on fait aussi un petit rappel sur le consentement. Là aussi, la notion de consentement est bien inculquée aussi dans les programmes.
Oui, on le voit tous dans... En quatrième, quand on avait eu les cours d'éducation sexuelle, oui, on l'a vu, l'importance du consentement aussi. On avait parlé aussi des statistiques en France. Oui, l'importance du consentement, on l'a vu.
Est-ce qu'il y a une déviance sur le plan sexuel avec l'accès au à la pornographie extrêmement précoce? J'ai lu ça.
Alors effectivement, si c'est interdit aux mineurs, c'est parce que ça peut des images extrêmement traumatisantes et que parfois, effectivement, pour un adolescent ou une adolescente qui rentre dans la sexualité, il découvre la sexualité avec des images pornographiques qui peuvent être très violentes et à côté de la réalité de la vie, de la vraie
complètement,
vie.
Et très précocement, entre 11 et 13 ans.
Oui, il paraît qu'à 12 ans,
plus de la moitié des adolescents ont déjà consulté ce type d'image.
Exactement, et puis voilà, la problématique,
c'est irréel et sans rapport avec la vie, comme vous
exactement,
le dites.
Exactement, voilà.
La vraie vie, c'est pas ça, quoi.
Et puis, qui souvent véhicule des images, du sexisme, de la violence. Il n'est pas question de consentement, ni de sensualité,
machisme,
ni de plaisir.
Violence, pas de consentement, c'est je dirais, une éducation au viol, quasiment. Et je trouve ça consternant.
Oui, c'est alarmant.
Et je pense qu'il faudrait que peut-être les réseaux sociaux soient modérés en la matière davantage. De manière... C'est vrai que les jeunes, comme tous, finalement, sont attirés par ce qui est choquant, par ce qui est négatif, par ce qui est violent. C'est assez consternant. Enfin, c'est mon opinion, hein. Peut-être de vieux, mais je pense que c'est valable pour tous les âges.
Mais le gouvernement, voilà, en a conscience et puis essaye de vraiment l'interdire aux mineurs, mais c'est toute la complexité de vérifier les l'identité.
Les réseaux sociaux, est-ce que c'est des simples tuyaux qui transmettent des choses ou est-ce qu'ils ont une responsabilité éditoriale? Je pense que oui. Pense qu'il faut, il est temps d'y faire quelque chose parce que. Le hoop, peut-être
C'est là.
Petite pause musicale.
Allez,
Jean, tu avais proposé...
Nina Simone, Revolution.
Et on se retrouve juste après sur le 107.
Eh bien, voilà.
Of all the evil that will have to end.
It will, oh yes, it will. Don't you know it's gonna be?
All right.
It will end.
Well, all right.
Well, all right.
Some folks are gonna get the notion.
Get your foot off my back. Get off my back,
stop.
Don't you know it's gonna be
all right.
Well,
Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne pour ce magazine santé. Voilà.
Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes pour des infections sexuellement transmises? Alors, par ordre de fréquence, j'aime bien les chiffres, je suis obsédé par les chiffres.
Alors, bah, du coup, j'ai fait les statistiques.
Oui.
11% des tests qu'on prescrit reviennent positifs à des infections bactériennes type gonocoque ou chlamydier.
Ah oui, quand même.
Donc, on les traite. Hein, le traitement, voilà, c'est une antibiothérapie de courte durée.
Oui.
On invite aussi, bien sûr, à ce que la personne puisse prévenir le ou la partenaire afin que les personnes fassent aussi un dépistage, parce que sinon, oui, il y a des contamination croisée. Donc, effectivement, ça correspond un peu au chiffre national parce qu'on sait qu'il y a une augmentation des IST bactériennes en France.
Oui.
Donc, voilà, on va dire au niveau des majoritairement des IST qu'on dépiste.
Est-ce que vous arrivez à faire des enquêtes épidémiologiques? Parce que j'étais un petit peu. J'ai été confronté, moi, à des histoires. Enfin, une femme qui avait été quittée, qui était enceinte, qui était seule et qui avait une infection bizarre, où tous les prélèvements revenaient négatifs, et on a fini par trouver un gonocoque. Et quand je lui ai dit, ben, écoutez, il faut que vous me donniez l'adresse de votre conjoint qui vous a quitté, j'ai essuyé un refus catégorique en disant, qui se démerde avec ce souci-là.
Alors qu'il avait besoin d'être...
Et je n'ai jamais plus... donner suite à ce genre de choses, quoi.
Alors, maintenant...
Est-ce que la loi le peut obliger à...
Je crois pas qu'il y ait une loi, voilà, qui oblige... Parce que, bon, la loi, voilà, il y a un respect de la vie privée.
Ah oui,
effectivement,
oui,
c'est un droit humain fondamental. Par contre, maintenant, il y a une application qui existe où une personne peut notifier à ses ex-partenaires ou partenaires de façon anonyme,
oui,
et ben voilà, le diagnostic oui, et les inviter à aller se faire dépister. Donc voilà, ça c'est possible avec une application gratuite et anonyme.
Bon, c'est une petite histoire de chasse comme ça. De...
Mais c'est vrai que voilà, il faut couper la transmission. Et puis maintenant, il faut dire que le dépistage des IST est aussi facilité parce
oui,
qu'il y a une nouvelle loi, donc depuis le 1er septembre 2024, mon test IST, et maintenant les personnes peuvent aller en laboratoire directement, sans ordonnance, pour être dépistées pour l'hépatite B, hépatite C, VIH,
oui,
syphilis, chlamydie, gonocoque, de façon gratuite. Pour les moins de 26 ans, c'est confidentiel, on ne donne même pas la carte vitale. Et pour les plus de 26 ans, il y a une prise en charge par obligatoire par l'assurance maladie, puis le reste par les mutuelles. Donc c'est une facilité d'accès aux soins. C'est vrai que ça, voilà, très simple maintenant de faire un dépistage.
Est-ce qu'aujourd'hui les maladies sexuellement transmissibles ont plus d'importance qu'autrefois ou bien on reste stable?
Ben, je crois qu'on observe une augmentation par exemple de la syphilis dans les milieux homosexuels. J'ai lu ça. Je ne sais pas si c'est...
Alors, au niveau épidémiologique, effectivement, il y a une augmentation de la syphilis. Et puis, voilà, gonocoque, chlamydier.
Oui.
Après, voilà, il y a eu d'énormes progrès au niveau, par exemple, de la prise en charge du VIH et oui, des patients séropositifs. Parce que maintenant, voilà, grâce aux trithérapies, une personne séropositive prise en charge à une vie complètement normale, ne transmet plus. Voilà, si elle prend bien son traitement, le virus devient indétectable et donc est intransmissible.
Oui,
donc
ben oui,
voilà, on a une vie complètement normale. Et puis il existe aussi maintenant des traitements pré-exposition.
La PrEP, hein, parce que ça. Oui.
La PrEP qui se généralise. Donc voilà, il y a, on va dire, une diversification de la prévention. Il y a le préservatif bien sûr, mais il y a aussi voilà les traitements pré- et post-exposition. Donc voilà, beaucoup de progrès. Oui. Au niveau...
Je crois même qu'ils ont publié, je crois que c'est aux États-Unis, un nouveau produit qui serait injectable deux fois par an, je crois, tous les six mois.
Ah ben, je ne savais pas qu'il était sorti, j'en avais entendu parler.
Voilà,
ça serait moins contraignant.
Il est sorti, mais il est extrêmement coûteux.
D'accord.
Mais enfin, bon, pour des gens qui mènent une vie particulière, je pense que
ça peut être
avoir
pertinent.
Un intérêt, mais bon, c'est vrai que le coût... J'ai entendu parler de 30 000 euros par an.
Donc, d'accord.
C'était quelque chose.
Donc, c'est pas prêt d'être généralisé, mais.
Oui, non. Tous les médicaments finissent par tomber dans le domaine des génériques au bout de, je crois, une dizaine d'années. Donc, faut pas désespérer, quoi. Mm-hmm. Je crois que.
Et puis, les experts estiment, enfin, voilà, il y avait un objectif de l'ONU Santé, c'était d'éradiquer en 2030 le VIH.
Ouais.
Et les experts estiment que si 95% des personnes séropositives dans le monde étaient dépistées, et que 95% des personnes séropositives étaient traitées, ça permettrait voilà,
oui,
d'éradiquer cette épidémie de sida.
Oui, 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 oui. Mais bon, il y a un problème énorme dans les pays en voie de développement, hein, parce que je crois que l'accès aux trithérapies en Afrique et en Asie est totalement, je dirais, embryonnaire. Hein, je crois.
Oui, l'accès aux soins n'est pas le même.
Et puis, j'ai entendu dire que le président des États-Unis avait supprimé cette l'aide aux vaccinations et aux maladies, au traitement du sida dans ces pays-là. Trump, donc, on risque de voir flamber de nouveau.
Trump, malheureusement, s'est aussi là.
Et le monde est un village, hein, donc
ça va avoir des répercussions. Ça va nous revenir, malheureusement, sur la santé. Revenir,
oui. En pleine figure, je pense, ce genre de choses. Oui. Est-ce que vous parlez, ça c'est ma casquette de gynécologue obstétricien, d'envisager des grossesses, à quel âge, etc. Parce que j'étais confronté à beaucoup de contraceptions qui duraient, et des gens souhaitaient avoir des grossesses à des âges relativement avancés, et on tombait sur des stérilités, en fait. Et on n'avait plus guère le temps de traiter ou d'envisager des fécondations in vitro, ou des choses assez dures, finalement. Je pense que la contraception doit aussi se discuter, je dirais, avec son pendant, qui est l'avenir obstétrical. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez ?
Alors, si les patientes nous interrogent, on peut l'aborder. Alors après, c'est sûr, nous, nos patientes sont très jeunes. Oui. Donc, c'est pas encore forcément un sujet. Encore, elles se projettent peut-être pas forcément parce qu'elles sont encore lycéennes ou collégiennes ou étudiantes. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être un sujet parce qu'on sait que la fertilité baisse.
Oui, à partir de 30 ans, elle est... elle baisse fortement.
Et puis, on va dire que notre mode de vie, les femmes font plus d'études, on commence à travailler plus tardivement, on a des projets de vie qui ne passent pas forcément par la réalisation de la maternité, d'ailleurs. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes, d'hommes, de couples qui ne veulent pas forcément d'enfants. Oui. Mais c'est vrai que des fois, si la question est réfléchie trop tardivement, des fois, ça peut être plus problématique. Bon, sachant que quand même ouvert jusqu'à 43 ans.
L'âge de la première grossesse en France est 31 ans, je crois, actuellement. Donc, c'est tard.
Ah, c'est tard, hein.
Oui, alors qu'on sait que la fertilité est quand même plus importante entre 20, 23, 24, 25 ans, et puis qu'à partir de 30 ans, elle baisse nettement, quoi. Donc, on se retrouve avec des stérilités involontaires et des techniques médicales qui ne marchent pas toujours, hein, des fécondations in vitro, de choses comme ça, des techniques assez lourdes, simplement pour des gens qui ont différé, quoi. Bon, c'est peut-être un peu vieux jeu de parler de tout ça, de parler... De voir l'envers du miroir, quoi. Mais je l'ai vécu en consultation.
Vous en avez été témoin.
Témoin assez souvent, quoi. Bon,
les filles, en général, elles ont, j'allais dire, un petit peu de réflexion par rapport à l'âge.
Au niveau de la grossesse.
Oui.
Je pense que...
Elles veulent terminer leurs études avant, quoi.
Oui, j'ai plusieurs amis. Ce n'est pas forcément un sujet qu'on aborde parce qu'on est,
c'est vraiment... Sûr.
vraiment jeune, mais pareil pour la première fois, c'est quelque chose, on l'a déjà abordé, j'en ai déjà parlé avec des amis, mais c'est plus, quand on en parle, c'est plus, je sais que j'ai certaines connaissances, quand ils en parlent, c'est plus dans le but de le faire pour le faire, pour dire je l'ai fait, et pas profiter du moment, et des fois, j'ai une connaissance, par exemple, qui l'a fait, mais qui connaissait même pas la fille, donc c'est plus dans le truc... juste de le faire.
Toujours sur les IST, Trichomonas, Candidose, c'est assez fréquent aussi, vous trouvez ça ?
Trichomonas, non.
Non.
Non, pas très fréquent. Voilà, de temps en temps, syphilis, hépatite.
Oui, hépatite
mais...
B.
Mais très rarement.
Parce que les gens sont vaccinés, quand même, pour la plupart.
Alors maintenant, le vaccin est obligatoire, effectivement, chez les nourrissons.
À deux mois, trois mois, six mois, ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, il fait partie des vaccins obligatoires avec le DT polio.
Oui.
Mais voilà, avant, ce n'était pas le cas. Donc, la majorité des jeunes sont vaccinés, mais peut-être pas encore forcément tous, parce qu'il y a 15-20 ans, ce n'était pas encore obligatoire.
Hein. D'accord, oui, c'est vrai. Oui, c'est relativement récent. Et c'est important, parce que moi, j'ai connu des nourrissons qui décédaient à l'âge de 6 mois d'une hépatite virale de transmission materno-fœtale. Passé totalement inaperçu, la mère était porteuse sans qu'on le sache, donc on dépistait après et on faisait des traitements du nouveau-né à la naissance avec des immunoglobulines et des vaccins pour... Et à une époque, c'était pas du tout dans les pratiques courantes. Le nourrisson faisait des hépatites graves à 5-6 mois de vie et souvent des décès.
Oui, très dangereux.
Très dangereux, oui. On parlera une autre fois des vaccinations, mais je pense que c'est... je sais que c'est un sujet extrêmement polémique actuellement, mais c'est un sujet qui scientifiquement se défend totalement quand on voit les accidents et la mortalité. Et, l'hépatite B, par exemple, donne des hépatites chroniques, des fibroses hépatiques, des cirrhoses, des cancers du foie, des choses assez, assez grave, quoi, qu'on voit disparaître avec les vaccinations. Hein. C'est, je pense qu'on verra disparaître. C'est, comme on a fait disparaître la variole par les vaccinations, je pense que le bénéfice-risque de ces vaccinations est important. Je crois également pour le papillomavirus. Est-ce qu'on vaccine les garçons?
Oui. Moi, quand j'étais au collège, moi, quand j'étais au collège, j'ai pas forcément eu, mais je sais que j'ai une petite sœur là qui est actuellement au collège et oui.
Oui, on vaccine les filles, mais je crois qu'il faut vacciner les garçons.
Maintenant,
Ah bon?
Oui. C'est sur toute une classe, ils vaccinent toutes les classes.
Ils proposent au cinquième.
Oui. Ah oui.
Mais après, peut, en fait, c'est à partir de 11 ans, le vaccin pour les filles est maintenant ouvert aux garçons. On peut aussi aller se faire vacciner chez son médecin traitant.
Et c'est efficace?
C'est efficace. C'est-à-dire que, il y a à peu près 120 papillomavirus, 120 espèces. Il y en a 40 qui touchent les muqueuses génitales. Alors, sous des formes bénignes, c'est les condylomes acuminés, ce qu'on appelait vulgairement les crêtes de coque, les verrues génitales. C'est embêtant, ça fait des petits choux-fleurs sur la verge ou sur la vulve. C'est pas chouette, c'est contagieux. Et puis, une douzaine de virus sont oncogènes, c'est-à-dire qu'ils déclenchent des cancers. Pas immédiatement, bien que moi, la patiente la plus jeune que j'ai vue avec un cancer du col invasif, véritable, elle avait 24 ans. Donc c'est quand même assez effarant. Et donc on vaccine actuellement, il y a deux types de vaccins, mais un vaccin qui comporte 9 virus, hein, 9 virus qui permettent justement de se défendre contre ces virus oncogènes. Et puis deux des virus sont des
Il y a de la prévention?
Ben oui,
en dehors de la vaccination.
Ah ben le préservatif. Oui. Mais si on fait disparaître le virus, si tout le monde est vacciné, c'est encore mieux, quoi. Parce que
oui, bien sûr.
Préservatif, c'est pas toujours le pied du point de vue sexualité. Hein.
Et donc, ça veut dire que ça concerne autant bien les filles que les garçons.
Totalement, oui, totalement. Et les garçons font pas trop de cancers de la verge, mais on s'aperçoit actuellement qu'il y a 2200 cancers du col par an en France. On vient de s'apercevoir qu'il y a autant de cancers ORL, de l'amygdale, de la gorge, des fosses nasales, des voies respiratoires supérieures, par ces papillomavirus, et qui touchent les garçons aussi. Donc c'est important de se vacciner. C'est comme l'hépatite B, ce sont deux vaccins qui préviennent un nombre important de cancers. Et je crois que c'est un message qu'il faut envoyer à tout le monde, pas qu'aux jeunes, à la population. Alors, on peut se vacciner, je ne sais plus, on vaccine vers 12-13 ans.
À partir de 11, alors entre 11 et 14 ans, c'est 2 doses, et au-delà de 15 ans, c'est 3 doses.
3 doses, et le vaccin est remboursé jusqu'à 20 ans.
19 ans chez les femmes, 19 ans chez les hommes, mais voilà. On peut aller jusqu'à 25 ans pour les hommes qui ont des relations avec des hommes.
Oui.
Bon, en réalité, le pharmacien ne va pas demander l'orientation sexuelle au patient. Donc moi, je sais que jusqu'à 26 ans, je propose aux patients hommes... je le prescris en tout cas, puisqu'il y a un remboursement.
Je crois que c'est une très bonne chose. Ces deux vaccins-là sont des vaccins qui préviennent beaucoup de cancers. Je crois que c'est très important.
Il y a des pays comme l'Australie où ils ont vacciné toute la population, tous les jeunes filles et garçons.
On veut disparaître.
Là, on voit qu'il y a un résultat au niveau santé publique, puisqu'il y a quasiment plus de cancers liés à ce papillomavirus.
Y compris ORL.
Amygdale, gorge, sinus, ORL, la bouche, la langue. Ce sont des mêmes virus, Et ça, je crois qu'il faut le dire, il faut en faire la promotion.
La promotion, hein.
Je crois que c'est très, très important, quoi. Et je pense que...
T'arrive d'intervenir aussi au sein de...
Non, moi, je ne fais plus d'intervention, de consultation. Je suis retraité.
Non, je sais, mais de conférences...
J'ai fait autrefois quelques conférences dans des lycées, dans des classes, etc. Mais je ne fais plus. Si on me le demande, je le ferai, mais je n'ai pas eu de demande particulière sur le sujet. Ouais. Mais je crois qu'il faut faire attention à tout ce qui se raconte sur les vaccinations. Il y a un espèce de lobby anti-vaccination où on nie les réalités scientifiques et on préfère mettre sous le tapis, on nie la réalité, on nie... Quand on n'est pas d'accord, c'est une polarisation de l'opinion, on préfère casser le thermomètre, casser les études scientifiques qui disent la vérité et les remplacer par des fake news, des mensonges qui sont lourds de conséquences.
J'ai envie de proposer une petite pause musicale, si ça vous va. Don't Stop Me Now, de Queen. I'm gonna have myself a real good time, I feel alive. The world.
Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne après cette pause musicale.
Isabelle, vous auriez des informations publiques sur le grill?
C'est la période?
Oui, on a une rentrée bien chargée. Alors je vais revenir d'abord sur une actualité passée, puisque c'est au mois de juin, mais c'est à Remiremont, donc au niveau local. En fait, du 2 au 8 juin, c'était la Semaine nationale de la santé sexuelle. Donc, c'était porté par le ministère de la Santé et Santé publique France. Et nous, alors, avec l'équipe, on s'est dit qu'on aimerait bien, pour la première fois, mener une action de promotion de santé sur notre territoire. Donc, on a organisé une matinée de sensibilisation à la santé sexuelle, à ses enjeux. C'était au centre social de Remiremont, début juin. Et on l'a ouvert aux professionnels du travail médico-social. Donc, on avait presque 20 participants, donc principalement des puéricultrices de PMI, donc qui travaillent dans les MSVS. Et puis, il y avait aussi quelques éducateurs. Et on a proposé une matinée ludique et conviviale. Et l'objectif, c'était de leur apporter quelques connaissances, quelques informations autour de la santé sexuelle, mais dans une approche globale, c'est-à-dire pas que l'aspect santé, mais aussi les relations affectives, et puis aussi faire la promotion de nos centres et voir un petit peu comment, par exemple, pour quel motif on peut nous orienter des jeunes, voilà, comment on peut travailler ensemble. Donc il y a eu pas mal de participants, donc c'était plutôt un succès, en tout cas les ateliers ont plu. Et puis on avait demandé à un partenaire d'être présent, donc il y avait Elisa qui est juriste au CIDFF, donc c'est le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, qui s'est jointe à nous avec Mathias.
C'est pour Faubourg d'Ambrail.
Oui, donc là on avait imaginé une matinée en co-animation, donc il y avait différents ateliers. Le CIDFF avait proposé un jeu de loi géant pour aborder tout l'aspect légal et sociétal autour de la sexualité. Parler aussi de la prévention des violences, et puis donc c'était ludique. Et ensuite en septembre, alors au niveau de notre actualité, Donc le 4 septembre, il y avait la journée internationale de la santé sexuelle. 16 septembre, c'est la journée internationale du préservatif féminin, qui est encore pas très connue du grand public, qui est pourtant lui-même aussi gratuit en pharmacie, sans ordonnance, en accès libre, notamment pour les moins de 26 ans.
Il doit être utilisé avec des spermicides, je crois, non ?
Non.
Surtout pas, je crois.
Avec du lubrifiant, oui. Évidemment, voilà, comme le préservatif masculin. Et puis, alors, son avantage par rapport au préservatif masculin, c'est qu'il peut être mis éventuellement quelques heures avant si la femme anticipe, voilà, et se projette sur une relation. Donc, voilà, il peut être inséré jusqu'à 8 heures avant le rapport. Et puis, donc, prochaine action, ça sera le 26 septembre, la journée internationale de la contraception. Donc évidemment, son objectif, c'est de faire la promotion de l'accès aux soins à la contraception. Et ça fait partie, voilà, d'un des axes de la stratégie nationale de santé sexuelle. Et donc nous, on est sollicité comme chaque année par l'assurance maladie, qui organise, donc nous on y participe, mais c'est eux qui organisent, des stands d'information, donc à destination des jeunes. Donc là, ça sera...
Ça va se situer où, ça ?
Alors ça sera, pour le coup, le jeudi 25... au lieu du vendredi 26, et ça sera à Épinal, donc au restaurant universitaire La Louvière, au restaurant universitaire au niveau de l'ENSTIB, et puis à la fac de droit. Donc voilà, il y aura des stands d'animation avec des quiz, ce sera ludique, donc en co-animation, assurance maladie, centre de santé sexuelle. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir ensuite favoriser l'accès aux soins auprès des jeunes, parce qu'il y a quand même eu des avancées majeures au niveau de la santé, puisque depuis déjà 2022, les moins de 26 ans ont un accès gratuit, entre guillemets, mais c'est parce que c'est une prise en charge à 100% de l'assurance maladie, des moyens de contraception, de la consultation de contraception, ainsi que du suivi. Et puis aussi la contraception d'urgence, qui est maintenant accessible à tous et à toutes en pharmacie, quel que soit l'âge, sans ordonnance, sans avance de frais. Donc ça, c'est aussi une avancée majeure. Et puis, bien sûr...
On peut s'adresser à la pharmacie, alors, directement ?
Oui, pour la contraception d'urgence.
Pharmacie. La carence en consultation médicale.
Alors ça peut être aussi, voilà, sur prescription auprès d'une sage-femme, d'un médecin. Les infirmières scolaires ont aussi un droit de prescription et de délivrance.
Et voilà.
Soumise au secret professionnel, donc sans forcément avertir les familles. Donc ça, il faut savoir que c'est aussi possible dans les établissements scolaires. Et puis nous aussi, en centre de santé sexuelle. Très simple, en pharmacie.
La présence d'une infirmière en milieu scolaire, donc ça permet quand même
d'avoir des relais. Pour la santé.
C'est important. C'est important.
D'avoir
elles sont primordiales.
D'accueil, quoi.
Ah oui, elles ont une place très importante pour les élèves. Donc voilà un petit peu les avancées au niveau de la loi. Et donc la journée de la contraception, ça permet de promouvoir cet accès aux soins pour que chacun, voilà, puisse avoir une sexualité agréable, en toute sécurité et puis en toute responsabilité.
Alors ça,
et prendre
ça va
soin de soi et des autres.
Quel public ?
Pour l'action du 25, là on va s'adresser aux étudiants. Ça peut s'adresser à tout le monde, mais là en l'occurrence, voilà, on met l'accent sur les jeunes. Du coup, là c'est des étudiants, donc on peut imaginer qu'ils ont entre 18 et 22-23 ans.
Oui. D'accord, pas plus tôt.
Alors après, plutôt, c'est fait en milieu scolaire. On a parlé tout à l'heure du programme EVARS.
À condition, bien sûr, qu'il y ait du temps disponible en milieu scolaire.
Ah ça, c'est les chefs d'établissement au niveau de l'éducation nationale ou du privé, voilà, qui organisent. Ouais. En tout cas, maintenant, le programme, l'EVARS est inscrit dans les programmes scolaires. Mmh. Donc je pense qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires. Les élèves puissent en bénéficier.
Avoir un emploi du temps adéquat.
Est-ce que vous êtes confronté de temps en temps, souvent ou jamais, avec les problèmes de transgenre, de gens qui n'acceptent pas trop leur sexe, je dirais, génétique et morphologique?
Alors, parfois, parce que on est accessible à tous, on a un accueil bienveillant, inconditionnel. Oui. Donc, toutes les personnes peuvent venir consulter, y compris pour ces questions-là, qui sont parfois un petit peu tabous au sein de la famille.
Même un peu dans la société, hein, pas très...
Donc parfois on peut être premier recours où les personnes peuvent venir en échanger avec nous, on peut bien sûr les orienter si besoin, mais voilà, ça reste encore pas très très courant.
C'est pas très courant, oui, parce qu'on entend beaucoup parler, je sais pas, les médias amplifient peut-être mais...
Sur Épinal, c'est chez vous qu'on va s'adresser.
Tout le monde peut s'adresser à nous, et puis après, si c'est pas dans nos compétences,
c'est assez décentralisé quand même.
On peut orienter parce qu'il y a un centre spécialisé sur le CHU de Nancy.
Ben oui.
Ah, oui. Service transidentité, voilà, avec des spécialistes.
Oui. Donc, prise en charge certainement psychologique.
Et pluridisciplinaire.
Pluridisciplinaire, voilà. Psychologique, médical.
Il faut aller à Nancy?
Chirurgical.
Oui, un centre spécialisé sur Nancy. C'est un parcours de soins qui est pris à 100% en charge par l'assurance maladie.
Oui.
Oui.
Donc voilà, un service spécialisé.
Qui n'est pas accessible aux mineurs, hein, je crois, si, pour l'instant.
Alors, ils peuvent recevoir des mineurs, mais je crois que la loi...
interdit de faire de modifications importantes. Oui.
Voilà, je crois qu'il y a l'histoire de l'âge de 16 ans.
16 ans, d'accord. C'est quand même des gens qui subissent des galères importantes, hein,
oui.
Sur le plan sociétal, psychologique,
oui, malheureusement.
Mais aussi médical et chirurgical. Hein, c'est quand même des choses extrêmement...
Malheureusement, voilà, il y a une discrimination importante.
Difficile pour eux. Ouais.
Et puis un accès aux soins, voilà, ça peut être compliqué d'en parler. Et puis l'acceptation aussi par la famille et puis l'entourage, oui. ça peut être compliqué. En tout cas, on sait que ça a un impact, voilà, sur leur santé mentale.
Oui, certainement.
Et puis voilà, puis ça c'est pas tolérable parce que voilà, tout le monde a droit à un accès aux soins et puis voilà, de vivre sa sexualité de façon sécuritaire, de se sentir bien, peu importe notre orientation, peu importe notre identité.
Et vous êtes assez nombreux pour réussir à faire passer le message.
Vous voulez dire au sein des centres de santé, oui. Sexuelle. Alors nous, on a une approche bienveillante. On est une équipe de 9 sages-femmes. On a aussi un médecin et puis un médecin directrice. Et deux conseillères conjugales. Donc, on arrive à faire des permanences. Il y a des permanences toutes les semaines. La PMI, c'est un accompagnement dès le début de grossesse.
Ouais.
Voilà, de la période périnatale, de la naissance, du retour à la maison, et puis de la petite enfance jusqu'à 6 ans. Et c'est vrai que les missions sont larges parce que ça va être aussi bien... Il y a des chargés de mission pour l'agrément des modes d'accueil petite enfance. Il y a les médecins et puéricultrices pour la promotion de la santé, voilà, du petit enfant. Elles font les bilans santé en école maternelle. Et puis, nous, les sages-femmes, voilà, il y a toute la période autour de la grossesse, l'accompagnement de la grossesse, et puis du postpartum, plus les centres de santé sexuelle.
Oui.
En tout cas, on fait au mieux. En tout cas, on répond à toutes les demandes. Quand un patient ou une patiente nous sollicite, on fait au mieux, voilà, pour. On arrive à, voilà, à les recevoir ou aller en visite.
Ça paraît quand même une tâche gigantesque.
Oui, mais en même temps, c'est nos missions. On est vraiment dans des missions de prévention, donc c'est au cœur de notre métier. Pour trouver la liste des 14 centres de santé sexuelle qui sont sur tout le territoire, vous pouvez aller sur vosges.fr. Et dans l'onglet jeunesse ou centre de santé sexuelle ou PMI, voilà, il y a différentes façons d'arriver à l'information, mais vous trouverez la plaquette avec toutes les coordonnées, mail, téléphone, téléphone portable. Voilà, ça peut être des fois une prise de rendez-vous par SMS, c'est assez facile. Et puis donc il y a des permanences toutes les semaines sur tout le territoire.
Dans tous les cas, c'était vraiment très intéressant comme émission. Merci beaucoup Isabelle Auger d'être venue.
Merci à vous, merci pour l'invitation.
Merci Michel, merci Jean. Merci Maëlle. Est-ce qu'il y a encore un petit mot de la fin de votre part ?
Nous remercions nos auditeurs pour leur écoute attentive et fidèle. Et voilà, bonne soirée,
merci,
à, bonne soirée à tous. Au revoir Michel, au revoir Isabelle, au revoir Maëlle.
Au revoir messieurs, au revoir vous.